Super. Combien d'entre nous on a vraiment donné de l'attention à ces versets? On est aujourd'hui dans la nouvelle alliance. C'est pas juste une question d'un commandement. C'est vraiment une question de la parole, de la loi. Est-ce qu'on connaît vraiment les 10 commandements? Dans Jacques. Ah, pardon, où est James? Quel est le premier commandement? Quel est le premier commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Pas tout à fait. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Le suivant est chapitre 20. Je suis l'Éternel ton Dieu et tu ne devrais avoir aucun autre Dieu que moi. Ne crois pas que n'importe quelle religion soit le même Dieu. Non, c'est des enseignements. Quel est le deuxième commandement? Quel est le deuxième commandement? Je sais que ça vous a été enseigné au règne d'enfant. Pourquoi est-ce qu'on ne les lirait pas ensemble? Donc, Exode 20. Amen. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel les a bénis le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Le monde le relie et de nous rappeler de ses commandements. Amen. Amen. Nous sommes justifiés aujourd'hui. Amen. C'est les commandements du Seigneur. Amen. On n'est pas sauvé par les œuvres de la foi. Amen. Le Seigneur l'a dit très clairement. On peut aussi le lire. Matthieu 5, 17 à 19. Le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Remember, the rich young man came to the Lord and said, what shall I do to inherit eternal life? The Lord said very clearly, the first thing...
Ce jeune homme avait demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit de garder les commandements. Et même Paul, dans Romains 8, on peut le lire ensemble. Romains 8. Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Est-ce qu'il dit... afin que la loi ne soit plus nécessaire à pratiquer? Non, c'est pas ce qu'il dit là. Il dit que c'est afin que la loi soit accomplie. Verset 4. Donc la justice de la loi soit accomplie. Donc le Seigneur est venu avec le but que ce soit accompli. Avant, ce n'était pas possible à cause de nos faiblesses. Mais maintenant, ça doit être accompli. Il y a 2 fois 5 versets. Et c'est une question de notre relation avec Dieu. Il dit, honore ton père et ta mère. Si on ne peut pas le faire, qui va nous, pour ceux qui nous ont donné la vie terrestre, alors comment est-ce qu'on pourrait honorer Dieu? C'est ce qu'il dit, en fait, dans les 5 premiers commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Des fois, on a cette expression, « Oh, mon Dieu, mon Dieu. » Mais soyons prudents. C'est utiliser le nom de Dieu en vain. C'est vraiment applicable, ces commandements. On ne doit pas adorer des images. Combien d'idoles? Peut-être qu'on n'adore pas des images taillées, mais combien d'idoles est-ce qu'on a dans nos cœurs? Dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il dit? Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Peut-être qu'on ne se prosterne pas devant des images. Mais combien d'idoles est-ce qu'on a dans nos cœurs? Donc ces commandements, ils sont vraiment très pratiques. Et les derniers cinq, je ne crois pas qu'on a tellement besoin de les expliquer. Tuer n'est pas juste un meurtre physique. Si tu haïs un frère, ne pas haïr quelqu'un quand il n'y a pas une raison, c'est facile. Mais ne pas haïr quelqu'un quand il t'a fait du tort, alors là, c'est plus compliqué. Mais le Seigneur dit, si tu penses mal de ton frère, alors tu as déjà commis un meurtre dans ton cœur. Juste de penser mal. On peut lire dans Matthieu 5.
Amen.
Comme on a lu dans Matthieu 5. Donc, Jean continue. On a besoin de vraiment le connaître. Des fois, on croit qu'on le connaît. On croit qu'on le connaît parce qu'on a été à tellement de conférences. Mais le premier test, si on le connaît vraiment, c'est vraiment de garder ses commandements. On croit qu'on le connaît vraiment. C'est pour ça que Jacques dit, on a besoin de pas juste être des auditeurs de la parole, on a vraiment besoin de la pratiquer. On connaît les commandements, on connaît la Bible. Mais si on ne fait pas ce qu'on entend, si on ne garde pas ses commandements, alors on se trompe nous-mêmes. Et il dit, en vérité, si vous gardez les commandements, l'amour de Dieu est rendu parfait. On a besoin de craindre Dieu. Mais garder ses commandements, c'est vraiment son amour qui est perfectionné en lui. Dans Jean 14, 31, je vous lis. Et celui qui a mes commandements et qui les pratique, c'est celui qui me connaît. Et celui qui me connaît sera aimé de mon Père. Je vais l'aimer et me manifester à lui. Je ne sais pas quel verset c'était, désolé. Amen. Celui qui va garder mes commandements, c'est celui qui écoute. Il met vraiment l'emphase, l'accent sur le fait. Le Seigneur dit que les 10 commandements sont résumés en 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on garde ces commandements, si on pratique vraiment ces commandements, ça veut dire qu'on garde toute la loi de Dieu. Maintenant, on comprend pourquoi Jean dit, si nous l'aimons, nous le connaissons, nous gardons ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est comme des personnes qui ne quittent pas leur travail parce qu'ils aiment leur travail. Il y a des personnes qui aiment tellement leur travail qu'elles ne vont jamais arrêter de travailler. Si on aime le Seigneur, alors on ne va jamais arrêter non plus de le suivre. Louez le Seigneur. Il dit ici, ceux qui gardent, on peut garder ses commandements parce qu'ils ne sont pas pénibles. Ça, c'est relié à notre amour pour le Seigneur, vraiment. Et ensuite, il continue aussi en disant, que nous sommes ceux qui demeurent vraiment en lui. Parce que notre Dieu est riche, juste, et il nous demande de garder ses commandements. Mmh. Il veut que l'on soit juste, comme il est juste. On peut voir dans Romains 7, 11, que ces commandements sont justes, vrais et bons, verset 12 en français. Ça montre qui est Dieu. Le Seigneur nous a rachetés. Il dit que les commandements sont devenus une malédiction. Comment est-ce possible que quelque chose de bon devienne une malédiction? On voit Paul était vraiment quelqu'un qui désirait garder la loi. Et là, il décrit son expérience au chapitre dans Romains 7.
Not a very positive experience, right? Because he really wanted to keep the law.
Il veut vraiment garder la loi. Donc, Romains 7, verset 10. Verset 19. Verset 10. Il dit, si ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion, séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc ça a eu l'effet opposé. Au lieu de donner la vie, ça l'a tué. Ça a causé la mort pour lui. Et le péché a saisi l'occasion en le séduisant par le commandement pour le faire mourir. Il y a donc une loi, en fait. On peut aussi lire verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point.
Amen.
Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc en fait, ça a eu l'effet opposé. Il veut faire le bien. Mais le résultat, en fait, c'est exactement l'opposé. Ensuite, il décrit son expérience. Car je ne sais pas ce que je fais. Et il dit, je ne comprends pas, en fait, ce que je fais. Car je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas.
Now, if I do not
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. À cause du péché, à cause de la nature que Satan est dans notre chair, il se passe exactement l'opposé de ce que l'on veut. Il trouve donc en lui cette loi, la loi du péché. C'est pas juste une loi qui le fait vouloir pécher, mais ça le garde même de faire le bien en voulant pratiquer les commandements. Il finit par faire l'opposé de ce qu'il veut. Et ça, c'est la loi du péché et de la mort. Donc, quand on veut garder la loi par nous-mêmes, le chemin est de le connaître, de connaître la vie. Et louer le Seigneur, ça ne se termine pas là, au chapitre 7. Amen, louer le Seigneur, ça ne se termine pas là. Amen. Donc, bien sûr, le résultat est... La solution, elle est ensuite au chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Romains 8, versets 1 et 2. Louis le Seigneur. Cette vie éternelle que l'on a, elle nous sauve aussi de la loi du péché et de la mort. Elle nous aide à vaincre. On peut vraiment vaincre. Amen. Et cette vie éternelle que l'on a, elle est plus grande que la loi du péché. Ce que le Seigneur a fait, dit au verset 3, le Seigneur l'a accompli dans sa chair afin de pouvoir maintenant par l'esprit l'accomplir en nous. Oui, louons Dieu. C'est pourquoi si on continue aussi dans l'évangile, dans les épîtres de Jean, dans l'épître de Jean, il parle tellement de la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, c'est le seul moyen de garder sa loi. Jean 17, verset 3, qu'est-ce que ça signifie de le connaître? Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parfois, on dit qu'on le connaît, mais en fait, de vraiment le connaître, c'est la vie éternelle, c'est de connaître cette vie en nous. On doit, une fois pour toutes, abandonner ce concept que la vie éternelle, c'est la vie après la mort. C'est encore un concept, même parmi nous, c'est un concept parmi les chrétiens, qu'après la mort, la personne se prépare à aller aux cieux. Non, en fait, on est déjà assis dans les lieux célestes. Et la vie éternelle, c'est vraiment connaître la vie de Dieu qu'on a reçue. C'est déjà maintenant. Jean 3, 16 dit, et quiconque croit en lui a la vie éternelle. Il ne périra pas, mais il a la vie éternelle.
So I hope we will never hear that again in Zion.
J'espère que l'on n'entendra jamais cela à Sion, qu'on va aller dans les cieux. Ça doit vraiment être ôter nos concepts. Amen. Nous avons la vie éternelle aujourd'hui. Et Jean parle tellement. Il parle 5 fois en 6 chapitres de la vie éternelle. On peut lire à nouveau comment il met l'accent là-dessus. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on ait ce concept que la vie éternelle, c'est après la mort. On peut lire dans 1 Jean 5, 11 à 13. 1 Jean 5, 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oui, merci. Ma femme a besoin de me redire des choses sans cesse. Et là, Jean met vraiment l'accent là-dessus. Vous avez la vie éternelle. Vous avez. Seigneur Jésus, verset 22 aussi. 20, pardon. Il répète. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Pas juste l'évangile de Jean. Oui, parle tellement de la vie éternelle. Mais là aussi, il met vraiment l'accent sur la vie éternelle. Parce que Dieu est éternel et on a la vie éternelle. Amen. Donc, connaître Dieu. Amen. C'est vraiment connaître cette vie éternelle. En nous. Et de la connaître signifie qu'on expérimente tout le potentiel que l'on a dans cette vie. En préparant les partages de ce matin, j'ai vraiment dit au Seigneur, je veux expérimenter cette vie éternelle de la même manière que j'expérimente ma vie humaine. En devenant plus âgé, on atteint plus de choses, on expérimente plus. Et ça devrait être notre attitude par rapport à la vie éternelle. Qu'il puisse nous changer, nous transformer. Il nous sauve aussi. Romains 5 dit, combien plus devons-nous être sauvés de cette vie? Amen. C'est pas juste de savoir à son sujet. Comme on a vu dans les premiers messages. On a besoin maintenant d'expérimenter. Amen. Expérimenter tout le potentiel qu'on a dans cette vie éternelle. Amen. D'être rendu libre de cette loi du péché et de la mort. Amen. Tant de choses veulent nous tirer en bas, nous distraire. Le monde, la chair, mais par cette vie, on peut vraiment vaincre. Et ensuite, au chapitre 3, verset 2. Il veut nous changer vraiment.
Because they have a human life. So with this life, we should all have such an desire to be there.
Dans la vie humaine, on peut être en train de succès parce qu'on est vivant. Et ça, on devrait avoir ce même désir en fait, dans notre vie, pour la vie éternelle. On peut lire 1 Jean 3. Ah, c'était 1 Jean 3, 2. On peut lire 1 Jean 3, verset 2.
Sorry, 1 John chapter 2, verse 28.
Pardon, verset 2, chapitre 2, verset.
Yeah. But
20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.
C'est
intéressant ici qu'il ne dit pas vous avez le Saint-Esprit, mais il parle de l'onction. L'onction est plus spécifique que juste l'esprit. L'onction est une sorte d'huile. Il en parle dans Exode 13. C'est pas juste de l'huile pure. C'est pas juste l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu avec des choses ajoutées dedans. Il y a cinnamome aromatique, le roseau aromatique, la casse et la myrrhe. Et en fait, il y a non seulement cet esprit, mais aussi toute la vie du Seigneur dans cette huile. Tout cela est contenu dans cette huile d'onction. Ce n'est pas juste qu'on a l'Esprit de Dieu, mais on a cette onction en nous qui nous enseigne toutes choses. C'est comme peindre à l'huile, c'est couche après couche. Et c'est ce que nous enseigne l'onction. Mais nous enseigne vraiment à être transformé de son humanité. Amen. Toutes les vertus de Dieu incarné en nous, transformé en nous. Amen. J'aime vraiment cela. Et ça donne un résultat. Amen. C'est pas juste dans la Bible, mais c'est vraiment écrit dans nos cœurs. Amen. Ça fait, tout ça, ça fait partie de la vie éternelle. C'est cette onction qui nous enseigne. On a besoin de désirer cet enseignement du Seigneur. Amen. Et en fait, plus il nous enseigne, plus on désire prendre part à cette vie éternelle. Amen. Et c'est tout ce que l'on peut expérimenter de la vie éternelle en nous. Son onction au travers de ce ministère dans la parole, c'est vraiment quelque chose qui est écrit en nous. Ce n'est pas juste écrit avec de l'encre, mais c'est écrit sur dans nos cœurs. Amen. Avec cette onction, va dans le but. On peut expérimenter tout ce potentiel que l'on a. On aimerait vraiment expérimenter Dieu d'une telle manière, la vie éternelle, par ses œuvres. Oui, Seigneur, pour nos nouveaux frères. J'aimerais donner encore un verset, 1 Pierre 2.
The way to know him is what? You are a what?
La manière de le connaître.
Convert? Are you a new convert?
Est-ce que tu es un nouveau converti?
You are a new one baby, right? You are a new one baby.
Tu es un nouveau bébé en Christ. Tu as reçu sa vie. Que tu désires le lait spirituel est pur. 1 Pierre 2, 2, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, j'espère que tu as goûté que le Seigneur est bon. Goûter et expérimenter sa vie éternelle. Et alors, tu as vraiment cette onction en toi. Amen. Oh, Seigneur.